en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pierre Rosenberg est historien d'art. La peinture française et italienne des XVIIe et XVIIIe siècles n'a aucun secret pour lui. La peinture comme le dessin d'ailleurs. Il est devenu le spécialiste international incontesté de Nicolas Poussin, à ses yeux, le poète par excellence de la nature. Il a réussi, ce tour de force saisissant, de nous faire entrer dans l'art de Fragonard, Watteau, de David, d'Oudingre et de tant d'autres dont il a réalisé le catalogue raisonné des œuvres. Avec lui s'efface l'épaisseur du temps et son regard rend accessible à nos yeux d'hommes et de femmes du XXIe siècle la peinture et les dessins des siècles précédents. Président directeur honoraire du musée du Louvre, auquel il a consacré sa carrière, il est membre de l'Académie française depuis 1995. Il est aussi administrateur du Comité français pour la sauvegarde de Venise. Il est avec nous aujourd'hui pour évoquer la Cité des Doges, auquel il vient de consacrer un livre sorti aux éditions Imprimerie nationale, Venise, itinérance.
J'ai écrit un petit texte dans ce livre. Livre, c'est surtout un livre de photos. C'est Jean-Baptiste Leroux, le photographe bien connu, qui a beaucoup travaillé pour les musées d'ailleurs, pour les châteaux et pour les musées, qui a accompli l'essentiel du travail, puisque les photos sont les siennes. L'idée de départ de ce livre, après quoi je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voudrez, était la suivante. Venise est envahie par les touristes, de plus en plus d'ailleurs, et même dans les quartiers où on croyait pouvoir les éviter. Et il y avait une chose qui avait résisté aux touristes, mais complètement résisté aux touristes, c'était les traghetti. Que sont les traghetti? Il y a, les touristes ne le savent pas, des gondoles, mais cette fois-ci sans luxe aucun, qui traversent, moyennant 50 centimes, le Grand Canal en plusieurs endroits. Et évidemment, ceux qui savent utiliser ces soi-disant traghetti sont les habitants de Venise. Les touristes ont bien trop peur de tomber dans l'eau, que sais-je encore. Ils ne connaissent pas le système, ils ne savent pas de où ils vont débarquer. Et en fait, ces traghetti sont importants parce qu'en fait, ils permettent de circuler dans Venise par des voies qui ne sont pas celles des touristes. Il y a, si j'ose dire, deux types de rues dans Venise, il faut bien le dire, sont celles qu'utilisent les touristes, si vous voulez, pour ne pas se perdre, avec des points de repère. Et il y a des voies qu'utilisent, au contraire, les Vénitiens, et qui sont des voies différentes à cause de ces traghetti. Alors j'avais, quand nous sommes rencontrés, Jean-Baptiste Leroux et moi, eu l'idée de lui demander de consacrer le livre uniquement aux traghetti, parce qu'après tout, c'est à peu près la seule chose aujourd'hui à Venise qui reste vénitienne.
Et donc l'ensemble des photos d'ailleurs...
L'ensemble des photos insiste beaucoup sur ces traghetti, le long du Grand Canal.
Entre ces trajets des traghetti. Pierre Rosenberg, les ponts de Venise sont importants, les traghetti aussi, vous venez de me parler. Les gondoliers, dont vous commencez votre texte, justement introductif à ce bel ouvrage de photos, sur un hommage à ces traghetti, à ces gondoliers.
Bien sûr. Mais les ponts, il y en a si peu.
À ce moment,
il y a une grande polémique dans Venise. Faut-il reconstruire le pont de l'Académie? Vous savez, c'est le pont...
Il est en bois actuellement.
Il est en bois et qui brûle tous les ans. On ne sait jamais si les incendies sont accidentels ou volontaires, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est une grande polémique locale. Faut-il reconstruire le pont de l'Académie, qui est un pont provisoire, en un certain sens? Et puis, il y a le nouveau pont de Calatrava. C'est un pont qui a beaucoup fait jaser. Les Vénitiens ont cru qu'il était complètement inutile, qu'il servait à rien. Il n'est d'ailleurs toujours pas tout à fait terminé, puisqu'il y a une voie pour handicapés qui ne fonctionne toujours pas. Mais enfin, nous sommes à Venise. Et donc, le pont de Calatrava, en fait, est un grand succès. Ce pont dont personne ne voyait l'utilité, qui unit l'affreux Piazza Le Roma, qui est l'endroit absolument affreux par lequel on entre dans Venise quand on est en voiture, ou en car, ou
c'est
en taxi.
C'est-à-dire le parking.
Une espèce de grand parking sauvage. Qui pourrait deviner que derrière ce parking, il y a une des plus belles villes du monde. Ceux qui arrivent par contre à la gare, et c'est le pont de Calatrava, unit la gare d'une part, et personne ne croyait qu'il aurait son utilité. En fait, il est très très utilisé, et une fois de plus, beaucoup de gens qui étaient hostiles à ce pont, qui coûtait cher, etc., ont dû se rendre à la raison et constater qu'il avait son utilité.
C'est un beau pont d'ailleurs.
C'est un très bon pont parce que le pont de l'Académie Salérien, le pont de Rialto est célébrissime, mais il est affreux. Il n'est pas du tout un des grands monuments de Venise. Il est mastoc, il a son utilité, c'est incontestable. Et puis c'est tout, quoi. Il y a le petit pont qui lui aussi est minable, qui va de la gare vers le centre. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas une ville de ponts.
Non.
Ce n'était pas une ville de ponts.
Bizarrement, pour une ville d'eau,
mais
avec
oui, mais
tous ces canaux, les ponts sont rares, d'où les traghettis.
D'où les traghettis, exactement, d'où les traghettis. D'ailleurs, en fait, tout le monde se déplaçait en bateau autrefois, beaucoup plus que maintenant. On a comblé beaucoup de canaux. Beaucoup, beaucoup de canaux ont été comblés. La circulation de Venise, autrefois, était une circulation complètement lacustre.
Avez-vous eu le plaisir d'être conduit sur un traghetto, c'est comme
oui,
ça qu'on
oui,
dit,
oui, oui,
par une gondolière.
Ça m'est arrivé
femme,
une fois.
Parce que c'est...
Ça m'est arrivé tout récemment pour la première fois. Le système des traghettis est très bizarre.
Parce que c'est très rare.
Oui, oui.
Je crois qu'elle est unique, il n'y en a qu'une.
Il y en a maintenant deux ou trois. Oui. Et comme vous le savez, les gondoliers, à tour de rôle, les vrais gondoliers, ceux qui vivent du tourisme, et qui en vivent d'ailleurs très 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 bien, sont contraints par un accord, je ne sais pas très bien comment il fonctionne, d'être gondolier de traghettis un certain nombre de jours par an. Donc automatiquement, s'il y a une gondolière femme, il faudra qu'un jour ou l'autre, et ça m'est arrivé l'autre jour, qu'elle soit aussi de corvée, si j'ose dire, pour les traghettis. Alors le problème des traghettis, il était bête et triste, c'est que certains fonctionnent très très bien, il y a du monde tout le temps, et d'autres fonctionnent moins bien. Et comme les gondoliers gagnent beaucoup beaucoup d'argent avec les touristes, ils renaclent un petit peu à faire le service de traghetto. Et par conséquent, ils ont tendance à vouloir supprimer les traghettis qui ne sont pas les plus rentables.
Oui,
et ça me pénalise considérablement parce que j'habite en un endroit où il y a un traghetto qui me rapproche considérablement du centre de la ville, de la place Saint-Marc où je ne vais jamais. Et évidemment, ce traghetto-là, je me bats pour qu'il ne meure pas tout de suite. Mais ouais. je n'y réussirai pas.
On verra. Peut-être que justement, les femmes reprendront le flambeau et seront plus sérieuses.
En tout cas, je suis désolé d'avoir à faire cette émission de radio parce que ça va donner à ceux qui nous écoutent l'envie d'utiliser ces traghettis qui, pour l'instant, étaient véritablement entre les mains
Je confirme qu'effectivement, les trois quarts du temps, on arrive à l'emplacement du traghetto et on ne voit pas
on
de traghetto.
On rebrousse chemin, je sais bien. Et donc je fais exactement le contraire de ce que je voudrais.
Bien. Vous commencez votre texte justement sur Venise Itinérance, c'est un joli titre, par « À chacun sa Venise ».
Oui.
Vous aimez rappeler « À chacun sa Venise », pourquoi ?
Si vous voulez, c'est une drôle de ville, je la connais bien maintenant, il m'est arrivé un jour cette chose extrêmement triste de ne plus m'y perdre.
Oui, j'allais vous le demander plus tard, mais
je
effectivement.
Je ne m'y perds plus.
Ouais.
Donc c'est très triste, donc je suis quelqu'un qui la connaît bien, j'y vais pour des raisons toutes simples, c'est que j'y suis tranquille et que je peux y écrire. Tout ce que je peux écrire en ce moment, je l'écris à Venise, parce qu'à Paris, on peut difficilement se concentrer et s'isoler suffisamment pour... Et donc, pour moi, la Venise, c'est un endroit tout à fait différent que pour les touristes. Je prends mes repas chez moi, donc je ne vais jamais au restaurant. Je ne sais pas ce que sont les hôtels. Tout ça, c'est pour moi inconnu. Et puis la place Saint-Marc, c'est pour moi jamais. Et je crois qu'en effet, il y a le touriste qui arrive et qui débarque, qui découvre cette ville et qui est complètement ébloui. Il y a celui qui retourne à Venise et qui constate que les ressources ne sont pas infinies. Il y a bien sûr les églises, il y a bien sûr les musées qui ne se portent pas tellement bien. Mais si vous voulez, l'offre culturelle, comme on dit, est très limitée. C'est une ville sans cinéma. La Fenice est un opéra intéressant, bien sûr, mais une
petite
salle.
Mais il y a quelques représentations, en plus.
Oui, oui, la Fenice donne des représentations. Mais elle a un problème à résoudre qui est très simple à expliquer. La salle est relativement petite. Les chanteurs sont chers. Pour amortir le prix des chanteurs, il faut des grandes salles. Mais j'y ai vu de très très belles représentations d'opéras parfois rares, parfois même des opéras uniquement chantés, de grande qualité. Donc la Fenice, qui bien sûr vit sur les contes d'Hoffmann à cause de l'acte qui se passe à Venise, vit aussi sur des représentations beaucoup plus sérieuses. Mais vous savez, restons un instant sur la Fenice. Venise aujourd'hui, je parle de Venise, 50 000 habitants. Et parmi ces 50 000 habitants, beaucoup de personnes très âgées et beaucoup de gens modestes. Parce que dès qu'un Vénitien a 3 sous, il va en terre ferme. Il habite... Donc qui fréquente la Fenice ? Les quelques touristes, bien sûr, qui sont là, mais uniquement une partie pendant l'année, ou des gens qui habitent la terre ferme. Mais quand vous habitez la terre ferme et que vous voulez la Fenice, c'est toute une histoire. Vous arrivez en voiture, il faut que vous trouviez une place de parking, il faut prendre un vaporetto pour aller jusqu'à la Fenice, et puis le retour, etc. Donc la fréquentation de la Fenice pose un véritable problème. Pour
c'est
ceux...
un casse-tête
et voilà.
Financier.
Donc, voilà. D'où le projet qui existe depuis des années de construire une Fenice en terre ferme.
Oh là là. Pourtant, elle a été magnifiquement restaurée.
Elle a été très bien restaurée. C'est un théâtre très charmant. Pas du tout vénitien. Il a l'air d'un... C'est une bonbonnière autrichienne. Elle a été construite d'ailleurs à l'époque...
C'est aussi l'histoire de Venise.
C'est aussi l'histoire de Venise. Elle a été construite du temps des Autrichiens, absolument.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'universalité de Venise ?
Quelle bonne question. Quelle difficile question. Je dirais plutôt l'unicité de Venise, c'est-à-dire c'est l'eau. C'est l'eau, c'est-à-dire... Le fait que c'est une ville complètement unique, qu'il n'y a pas d'autre ville où on ne se déplace que sur l'eau, où les transports se font par eau. etc. Donc je crois que ça, c'est assez unique. C'était en fait la raison qui faisait qu'elle était touristique au XVIIIe siècle déjà. Les touristes du XVIIIe siècle, qui n'aimaient pas Venise en général, qui la trouvaient puante. C'était le mot qui revient chez tous les visiteurs de Venise du XVIIIe siècle. Et qui y allaient pour des raisons qui ne sont pas tout à fait honorables. Parce que c'était, bon, disons les choses simplement, c'était le grand bordel de l'Europe. Et on y allait comme on allait autrefois à Pigalle. Ces touristes sont gênés par la puanteur de la ville et par la noirceur de la ville, ce qui maintenant a disparu. La ville est maintenant devenue... Mais elle était très noire.
Noire et par la fumée des cheminées.
Je ne sais pas par quoi.
Parce que là, ce n'était pas une ville industrielle,
non,
ça ne l'a jamais été.
Mais non.
Du 18e encore. Enfin,
mais ils se plaignent tous, mon petit domaine à moi, par exemple, que les tableaux sont noirs. Et pourtant, Dieu sait si la peinture vénitienne est une peinture colorée, éclatante. Mais ça revient sous toutes les plumes. Mais naturellement... L'arrivée sur Venise, naturellement par la place Saint-Marc et non pas par
la découvre aujourd'hui.
Bien sûr, on oublie d'ailleurs toujours que, en fait...
Ça devait être un choc formidable.
C'était un choc formidable et ça revient sous toutes les plumes. On oublie d'ailleurs justement qu'il y a eu ce renversement de l'entrée de Venise. Et on oublie surtout que, autant le chemin de fer a été rapidement installé entre la terre ferme et autant la voie pour les automobiles est très récente. C'est une construction de Mussolini, je crois de 1937. On ne pouvait aller à Venise autrefois qu'en train. Tous ces bousculements sont considérables.
Comment aimez-vous y aller ?
Moi, j'y vais en avion. J'y vais en avion.
Alors
parce
après,
que...
vous prenez le bateau ?
Je prends un car qui me met jusqu'à Piazza Leroma. Et là, j'ai deux possibilités. Ou bien je vais à pied chez moi, 10 minutes ou un quart d'heure. Mais comme je suis toujours très chargé, je prends parfois un taxi, il faut bien dire la vérité, ou quelque chose comme ça. Mais pour quelqu'un qui y va très régulièrement, le point capital, là, je vais faire, c'est de partir par Orly. Et non pas par Roissy, je ne parle pas de compagnie aérienne, là. Vous voyez, je reste la discrétion. Parce qu'évidemment, pour moi qui ai l'habitude maintenant du voyage, je peux faire porte à porte en 4 heures. Porte à porte en 4 heures, c'est quand même formidable.
Oui, c'est trop fort rien. Venise ne peut que... Enfin, on imagine que ça ne peut que parler au cœur et à la passion de Pierre Rosenberg. Le cliché veut qu'on l'appelle la ville de toutes les beautés. C'est une ville d'art, sans tomber dans tous les clichés.
On y tombe facilement,
j'y vais à pieds joints. J'aimerais vous demander, quelle est pour vous la Venise des peintres, pour ouvrir vraiment très largement la question. Après, on rentrera sûrement dans les détails. Mais la Venise des peintres de Pierre Rosenberg ressemble à quoi ?
Il faut d'abord se dire que le grand moment de Venise, c'est le XVIe siècle. Ça, c'est clair, ça a été leur grand siècle pour la peinture. Mais même dès le XVIe siècle, on s'aperçoit que beaucoup des plus grands peintres vénitiens, ils ne travaillent pas pour Venise. Titien font sa carrière en Espagne, c'est un grand voyageur. Mais ceci dit, la ville est riche et entretient ses peintres. Et ils entretiennent plutôt bien. Alors, il y a les trois grands génies de l'époque. Évidemment, Titien est de loin la personnalité majeure. C'est évidemment un artiste tout à fait hors norme, avec cette espèce d'exécution très libre et en même temps cette émotion de ses derniers tableaux qui est unique. Malheureusement, des grands tableaux de Titien, il y en a peu à Venise. Il vaut mieux aller au Prado pour voir le grand Titien qu'à Venise. Alors après, le XVIIe siècle est un siècle qu'on réhabilite à l'heure actuelle, mais qui reste, on ne sait pas par quel hasard, un siècle un peu décevant. Et puis le XVIIIe siècle, alors là, c'est très intéressant, et tous sont partis, y compris à Paris. Je veux dire, Pellegrini ou La Rosalba ou même Sébastien Ricci sont passés par Paris, en général sur le chemin de l'Angleterre. Bellotto a peint surtout en Pologne, mais pas à Venise, il y a à peine été. Canaletto non plus, et ses grands tableaux, c'est l'Angleterre. Donc en fait, si vous voulez, au XVIIIe siècle, la ville est une ville pauvre. Et ses peintres s'exportent et exportent leurs œuvres. Alors il y a Guardi. Alors Guardi, il a trouvé un filon. Il fait des cartes postales. Il peint Venise. Et alors les gens, au lieu d'acheter une carte postale, achetaient un Guardi.
Sympathique.
C'est sympathique, c'est sûr. Mais tout ça limite un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a une extraordinaire peinture vénitienne, mais c'est une peinture d'exportation. Et alors après...
À propos de Guardi, on dit que les ciels de Guardi sont particuliers sur Venise.
Oui.
Alors, vous qui aimez tant les ciels de Poussin...
non, c'est pas les mêmes. Non, mais il y a une manière de capter la lumière, des reflets de la lumière sur l'eau. Ce sont deux mondes, celui de Canaletto et celui de Guardi. Ce sont deux conceptions de la peinture. Les Français ont toujours préféré Guardi parce qu'il y a une espèce de liberté d'exécution. Les Anglais ont toujours considéré Canaletto comme un peintre anglais, parce qu'il y a une plus grande rigueur, et puis il y a ce goût pour l'architecture palladienne, qui est devenue une sorte d'architecture que les Anglais ont considérablement appréciée. Oui, c'est vrai. Et puis après, le 19e siècle, ce sont les étrangers, les peintres de Venise.
C'est la période où Venise est la plus peinte ?
Si vous feuilletez des catalogues de vente, que ce soit de Londres, de Paris ou de New York, je parle des ventes du 19e siècle, la ville la plus peinte, de loin, au XIXe, beaucoup plus que Paris, c'est Venise. Venise, au XIXe siècle, a été, par toutes sortes de peintres, très souvent très mauvais, la ville la plus peinte. C'est très curieux, on n'a jamais écrit là-dessus, que je sache. On pourrait faire des statistiques, il ne s'agit pas de bons peintres, il s'agit très souvent de peintres médiocres, il y a quelques-uns qu'il faudrait réhabiliter, c'est certain, mais c'était la ville qu'on peignait. Et parce que je crois que le tourisme s'est développé et que par conséquent, on voulait ramener de Venise non plus un Guardi, mais un tableau qui l'a représenté, et que quand on n'y allait pas, avoir sur ses murs une vue de Venise, c'était une manière d'oublier la grisaille quotidienne de Londres. Donc, ça a été très laid, très perlant.
Et le mauvais temps, dites-vous d'ailleurs.
Le mauvais temps, oui. Le mauvais temps où, à Venise ?
Le londonien.
Ah oui, bien sûr, là, c'est sûr. Parce qu'à Venise, le temps est assez mauvais parfois, en hiver, mais enfin, on s'y fait.
Pardon de cette digression.
Non, pas du tout.
Vous nous expliquez que Venise était, au XIXe siècle, probablement la ville la plus peinte, mais qu'on avait peu de...
Oui, mais il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter à cela, surtout pour la première moitié du siècle, alors que les peintres, c'est surtout la seconde moitié du siècle, c'était une ville très, très pauvre. C'était une ville particulièrement pauvre, la misère y était, mais on a du mal à comprendre comment cette ville, qui était relativement prospère au XVIIIe siècle, pour toutes sortes de raisons, touristiques entre autres, le jeu naturellement qui a joué un grand rôle, a pu tomber dans un tel état de misère, beaucoup plus que les autres villes italiennes. Tout était à vendre. Quand je dis tout était à vendre, je veux dire les plafonds, mais aussi les habitants. Et Byron, sur ce point, qui a été un grand amateur de Venise, le dit clairement. C'était une ville misérable à l'époque autrichienne. Et puis, avec l'indépendance, et puis avec surtout Murano qui a repris une certaine importance, qui a pris une grande importance au XIXe siècle, les choses ont changé. Maintenant, la ville n'est plus misérable. Mais on oublie ça. Il y a plusieurs choses qu'on oublie. La question que je pose toujours à mes amis français, qui arrivent à Venise, je leur demande qui est maire de Venise ? Alors, ils me disent, je ne sais pas qui est maire de Venise. Alors, est-ce qu'il y a un maire à Venise ? Je ne sais pas. En fait, le maire de Venise est maire de Mestre. Mestre, c'est 250 000 habitants, Venise, c'est 50 000 habitants. Et par conséquent, on peut comprendre qu'élu par les habitants de Mestre, ils s'intéressent plus à Mestre qu'à Venise. Et ce sont des choses comme ça que le touriste ne sait pas. Et il y en a beaucoup. Et pour entrer dans Venise, il faut avoir décrypté ce genre de faits. Donc il y a, si vous voulez, la Venise des touristes, si vous voulez, la Venise dont on parle tous les jours. Et puis il y a une réalité vénitienne très très différente. Et qui a des côtés très positifs, évidemment.
Pour vous, c'est une ville qui meurt ou pas ?
Non, elle n'est pas qui meurt, elle est morte. Elle est morte. Je le dis avec nostalgie et j'ai un peu honte de le dire parce que je crache dans la soupe. C'est une ville que j'adore et j'y suis très heureux. Mais elle n'a pas su entrer dans le nouveau siècle. La dentelle est disparue. L'industrie d'hiver se porte aujourd'hui, hélas, très très mal. Un peu de la faute des Vénitiens parce qu'ils ont un peu trop voulu jouer le bas de gamme. Et pourtant, c'est une industrie merveilleuse. Murano a été une des grandes... Je m'intéresse un peu au verre de Venise. Il y a eu des très grands moments de Venise. Il y a des très grands moments. La fin du 19e, où les objets étaient un petit peu baroques, un petit peu... J'aime pas le mot baroque, étaient complètement fantaisistes et fantastiques. Et puis, les années 20, les années 30, où il y a eu de vrais créateurs à Venise.
Aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est vrai. Enfin, on n'en voit pas beaucoup quand
Si, il y en a quelques-uns. Il y a un Japonais qui vient d'être exposé au Musée des Arts Décoratifs, ici à Paris, qui s'appelle Ohira, qui vient de quitter Venise, hélas, qui est un vrai créateur, un grand créateur. Il en faudrait 10, 20 comme lui. Il y en a 3 ou 4. Et puis, c'est vrai que le tourisme étant ce qu'il est, les pièces de ces artistes sont chères et on vend plus facilement les pièces de série faites en Chine, etc. Donc, si vous voulez, la ville s'est complètement livrée au tourisme. Elle y a perdu quelque chose. Et ses habitants, dès qu'ils ont 3 sous, je le disais tout à l'heure, veulent la quitter pour être... Et pourquoi est-ce qu'ils veulent la quitter ? Pour plusieurs raisons. La ville n'est pas commode. Faire ses courses est toute une affaire. On l'a dit cher, ce qui est un peu exagéré, mais c'est incontestable qu'elle est plus chère qu'à la terre ferme. Donc, ne reste à Venise que des habitants qui viennent pour le week-end, ce qui ne permet pas au commerce de vivre, ou des gens relativement pauvres, qui n'ont pas l'argent pour aller en terre ferme. Je parlais de Traghetti tout à l'heure. J'en ai un tout près de chez moi. Et on voit le matin les gens arriver par ce Traghetto pour aller dans le centre. Et puis le soir, les gens repartent. Et la ville, le soir, est vide. Et parce que ses habitants l'ont quitté. Et c'est un peu triste, une ville sans habitants. Je crois que sur ce plan-là, on peut être un peu plus optimiste. Je crois qu'il y a un retour vers Venise, que les étudiants, par exemple... Là aussi, par exemple, c'est une ville qui a joué sur les étudiants. Mais la grande université, c'est pas Venise, c'est Padoue, qui est une des plus vieilles universités du monde. C'est avec Bologne et la Sorbonne, une des plus vieilles. Et la tradition de Padoue est telle que...
C'est l'équivalent de la Sorbonne.
Et c'est une grande université. Donc, il y a des étudiants à Venise. Et une des bonnes choses, c'est que ça dans certains domaines, ça recommence à aller. Il y a le fameux Campo Santa Margherita, où j'habite pas très loin, qui le soir est très animé. Voilà. Il y a enfin un peu. Mais, je crois que les maires successifs que j'ai connus, que je connais, ont un peu abdiqué et on peut livrer trop la ville aux touristes. Et je crois que la ville sera toujours une ville touristique et ce sera toujours l'industrie majeure. Mais si elle ne devient qu'une sorte de ville touristique, ce sera un peu triste.
Pierre Rosenberg, quand vous êtes à Venise...
Je travaille.
Vous travaillez, vous nous avez dit. Bon, mais autrefois, vous avez forcément été dans les musées ou, bon,
oui,
ou n'importe quelle église de Venise.
Oui, oui, oui.
Alors, quelles œuvres ont votre préférence dans cette ville sur lesquelles aimez-vous revenir
Oui, il y a une église qui s'appelle Angelo Raphael, et où il y a un devant d'orgue qui a été peint par Francesco Guardi. Parce que vous savez, il y a deux Guardi, il y a Francesco et Gian Antonio. Gian Antonio m'est cher, puisque une des belles trouvailles que j'ai pu faire dans ma vie a été de trouver dans l'église des Andelys, dans une des églises en France,
dans
la ville natale de Poussin, un immense tableau de Gian Antonio Guardi, qui maintenant est en vue dans la cathédrale d'Evreux, je crois, oui, d'Evreux, qui est un des plus beaux tableaux religieux de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, j'ai un petit faible. C'était une de mes belles trouvailles, un des tableaux dont j'étais content de le trouver. Quand je l'ai trouvé, ce tableau, j'ai dit que c'était Gian Antonio Guardi, donc le frère de Francesco, et j'ai dit ça au monument historique, etc. Ils m'ont dit, ah, mais comment vous le savez? Puis, bon, je leur ai dit, ça se voit, enfin, ben, c'est mon métier, c'est de faire des attributions. C'est ce que j'aime faire particulièrement. Et puis on l'a restauré, puis on a trouvé la signature, donc je me suis paré des... J'ai triomphé facilement, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, voilà une église que j'aime bien. Elle est dans un quartier pas du tout touristique, un peu encore à l'abandon. Des quartiers vides, très beaux, des quartiers vides, et avec vraiment... Et ça, c'est une zone de Venise, par exemple, qui reste encore très émouvante. Très émouvante. Et l'Angelo Raphaël est une très belle église. Non, il y a quelques beaux endroits à Venise qui restent encore... très poétique, et avec un côté hors du temps quand même qui n'existe presque plus ailleurs.
Poussin a-t-il été à Venise ?
Oui, Poussin était à Venise. Il y était en 24, sur le chemin de son troisième voyage. Et on a beaucoup discuté, en effet, de cette présence de Poussin à Venise en 1624. Parce qu'il y a un moment de Poussin, quand il arrive à Rome, où il est très insensible à l'art vénitien. Enfin, il est très sensible à Titien. Mais ces grands Titiens, il les a vus plus à Rome qu'à Venise. Et la discussion, justement, sur... On ne sait pas très bien le temps qu'il y est resté, 2-3 mois. On ne sait pas très bien ce qu'il y a fait. Il y a certainement découvert quelque chose qui, dans les premières années, était très important pour lui. Ce sont d'abord ces contrastes de lumière entre les bleus des ciels crépusculaires ou des matins d'aurore. Non, il y a été certainement très sensible, cette Venise. Mais par la suite, la peinture vénitienne, ce n'est pas du tout son affaire. Ce n'est pas du tout son affaire. Cette peinture très sensuelle, si vous voulez, bien que Poussin, dans les premières années, a peint des tableaux très sensuels aussi. Non, donc je crois qu'il y a eu ces premières années où il a été sous l'influence du Titien, mais très vite il a vu que c'était une voie dans laquelle il ne pouvait pas rester, incontestablement. Le séjour à Venise a été certifié par les auteurs de contemporains de Poussin, mais sa longueur, ce qu'il y a fait, de quoi il vivait là-bas, ça reste encore très mystérieux.
Très mystérieux.
Très mystérieux.
Peut-être trouverons-nous, ou trouverez-vous, vous.
Mais les peintres français sont allés à Venise au XVIIe siècle.
Oui,
je ne sais pas, un peintre qui s'appelle Régnier, qui était de Maubeuge, un peintre caravagesque important, qui a quitté Rome à un certain moment pour s'établir.
C'était Rome, là, la ville où on allait. Donc on n'allait pas à Venise.
Bien sûr, bien sûr.
Il faut attendre, c'est peut-être leur.
On allait à Rome, bien sûr. Si on devait choisir une seconde ville, c'était Bologne, surtout au XVIIe siècle. Naples avait ses fanatiques, mais Venise, quand même, on y passait.
Est-ce Régnier, que ce sont exemple. Les écrivains qui ont relancé, j'allais dire, peut-être
Oui, c'est vrai, peut-être, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a une tradition d'écrivains français à Venise qui est très ancienne, oui, évidemment, Montaigne, etc. Non, mais c'est vrai, peut-être. Les peintres, oui. Mais je pense que je reviens à Régnier, par exemple, il y est retourné à Venise, il y est resté. Il est devenu un des grands marchands de tableaux de Venise et il s'est complètement intégré dans la ville. Il était connu parce qu'il avait plusieurs filles qui étaient des grandes beautés à Venise. Et on allait voir son atelier.
C'est important, les femmes à Venise.
Et ses filles, dont l'une a épousé un peintre vénitien, d'ailleurs très intéressant, qui s'appelait Pietro della Vecchia. Peintre assez affreux, mais un grand peintre. Donc, si vous voulez, les peintres, oui, bien sûr, mais voué passer par Venise. Non, quand même, on ne peut pas dire que les artistes... C'était Rome, bien sûr, la capitale des arts. Mais on ne peut pas dire que Venise laissait les artistes indifférents.
Si vous donniez un mot pour définir Venise.
Un seul ?
Oui. C'est triste, hein ?
C'est triste. Qu'est-ce que vous dire ? Un mot pour définir Venise. D'abord, chaque fois que je parle, je suis heureux. Si vous voulez, j'ai pris mes habitudes vénitiennes maintenant, et je compte les jours qui me séparent de mon arrivée à Venise. Et pourtant, je quitte à Paris mes chats, par exemple, qui comptent beaucoup. Mais j'ai pas de chats à Venise.
Ah, mais il n'y en a plus.
Il n'y en a plus.
Pleurons sur la mort des chats.
Mais oui, bien sûr, c'est une grande tristesse. Mais j'aurais pu en avoir chez moi.
Oui.
Mais je n'en ai pas chez moi parce qu'une semaine par mois, pour des chats, ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin d'une compagnie plus longue. Je suis sûr que si j'avais des chats à Venise, ceux à qui je les confierais par mon absence en deviendraient les maîtres. Donc, j'ai pas de chat à Venise, donc mes chats me manquent. Non, mais chaque fois, je suis heureux d'y arriver, à cause de la lumière, à cause de cette intemporalité. Le temps s'arrête. C'est dû, évidemment. Et d'ailleurs, il y a un phénomène très clair. J'ai beaucoup voyagé en Italie par le passé. J'ai du mal à quitter Venise. Quand j'y suis, j'y reste. Et quand je dois aller en Italie, je préfère y aller depuis Paris que depuis Venise. Je fais tout pour ne pas aller à... Et pourtant, maintenant, les moyens de communication en Italie ont beaucoup changé, se sont considérablement améliorés ces dernières années, ce qu'on ne sait pas. Et maintenant, on voyage très facilement en Italie avec des trains qui sont tout à fait confortables, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Et pourtant, Venise... Mais la question qui se pose, c'est de savoir si Venise est en Italie.
Je voudrais qu'on parle aussi de votre action au Comité français pour la sauvegarde de Venise. C'est l'occasion.
L'heure actuelle majoritaire parmi les résidents à Venise. Aujourd'hui, la France n'a pas à rougir de ce qu'elle fait à Venise. Elle fait beaucoup, elle le fait bien. Elle le fait grâce à Jérôme Ziznis et à son équipe. Et ça, c'est un bon point pour la France.
Oui, le Comité français pour la sauvegarde de Venise a restauré beaucoup de choses au niveau de la salute.
Surtout le palais ducal.
Le palais ducal et l'entrée du palais ducal, les escaliers, les corniches avec les statues. Je ne connais pas bien les termes.
C'est très bien. Les différents comités se sont... Mais les Français sont à l'heure actuelle très présents et font beaucoup pour cette ville.
Pour en savoir plus d'ailleurs sur le Comité français de la sauvegarde de Venise, j'invite les auditeurs à aller sur Internet, parce que le comité a justement un site Internet. Il suffit de taper dans un moteur de recherche « Comité pour la sauvegarde de Venise » et on tombe directement dessus. Et on peut y voir toutes les restaurations que le comité français a lancées. Donc, toutes les principales missions qui ont été menées autour de la basilique de la Salute, du Casino Venier, de la fondation Quirini Stampalia ou bien encore de la basilique San Giovanni e Paolo.
Alors, si vous voulez, c'est une ville qui se porte bien du point de vue des monuments historiques. Contrairement à ce qu'on croit, la ville est propre. Et elle est bien restaurée, elle est bien tenue. Beaucoup mieux que la majorité des villes françaises. Les églises de Venise sont impeccables. Et je veux dire, il y a des cartels qui vous disent de qui sont les tableaux. On peut les éclairer. À mon avis, une des églises les plus belles du monde et les mieux entretenues du monde et les plus émouvantes du monde, c'est les Frari. Cette magnifique église où il y a en plein centre l'Assomption de Titien. Il y a une petite chapelle à droite avec le tombeau de Monteverdi, avec une rose dessus. Vous savez que cette rose, on ne sait pas qui la pose. Elle est là et elle est renouvelée chaque semaine ou tous les mois, je ne sais pas. Et il y a un mystère sur la personne qui est, elle tombe du ciel ou je ne sais pas. Mais on ne sait pas qui pose cette rose.
Une légende,
c'est la vérité. En tout cas, voilà, c'est une des églises les plus belles qui soit, une des églises les mieux entretenues qui soit. D'une manière générale, le patrimoine de l'Italie, d'une manière générale, de Venise en particulier, si on compare les églises françaises avec les églises...
Ça
n'a rien à voir. Et on sent un véritable amour pour les églises, des prêtres et des habitants.
C'est vrai de l'Italie entière.
C'est vrai de l'Italie entière.
Par rapport à la France, on va
bien
dire.
Bien sûr, absolument.
Qui n'a peut-être pas non plus, ça a sûrement un lien avec la foi ou catholique.
Ça n'a rien à voir avec la foi.
Mais je ne pense pas, parce qu'effectivement, quand on va en Espagne, on voit que les gens viennent prier. En Italie, on vient aussi voir ce que les églises ont dans leurs murs.
Absolument.
Et il y a une véritable passion populaire
Il y a plusieurs raisons à cela.
L'histoire de l'art en Italie.
Voilà, c'est parce que l'enseignement de l'histoire de l'art dans les lycées est obligatoire. Mmh. Donc ça fait que les Italiens ont une sorte d'approche des œuvres d'art plus facile que pour les Français. Et en effet, c'est leur patrimoine majeur. Si vous voulez, bon, je n'ai rien contre les écrivains italiens, qui sont évidemment de très grands écrivains, mais il n'y a pas cette espèce de poids de la littérature qui prédomine en France et l'histoire. Parce que l'histoire italienne, ça n'existe pas. Enfin, c'est très difficile, c'est très compliqué, ces villes qui se battent entre elles, tout, etc. Donc, les Italiens, ayant une histoire un peu compliquée et une littérature géniale mais courte, se sont rabattus, si j'ose dire, sur leur patrimoine artistique, qui est leur priorité et avec lequel ils sont familiers. Et c'est incontestable. J'étais ces jours-ci aux obsèques du secrétaire perpétuel, Monsieur Leclan.
De l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Que je connaissais bien. Et à Saint-Germain-des-Prés, c'est effroyable. Effroyable l'état des tableaux dans Saint-Germain-des-Prés. Je sais bien qu'on va la restaurer, mais il est grand temps. Et puis, quelques temps auparavant, il y avait justement... Michel Mort a été... Les obsèques ont eu lieu à Saint-Sulpice. C'est ma paroisse aussi, bien que je ne sois pas pratiquant. Mais, enfin, c'est le quartier où je vis, si j'ose dire, à Paris. Là aussi, l'état de cette église, c'est incroyable par rapport à l'Italie. Et puis, en plus, le mépris à l'égard du visiteur. Pas de cartel, rien pour l'aider à la visite, rien. Des petites affichettes collées avec du scotch n'importe où, enfin non. Et à cet égard, les Italiens, croyants ou pas...
Ça n'a rien à voir.
L'église est un lieu... J'ai été plusieurs fois à des obsèques à Venise de gens simples, parfois. La femme d'un tailleur, par exemple. Des obsèques... on sent que l'église dans laquelle l'obsèque a lieu, qui est belle, avec de beaux tableaux et tout ça fait que ce moment triste d'une mort prend un autre ton, une autre allure. Je crois que les Français ont, à l'égard des œuvres d'art, une attitude plus protestante qu'on ne le croit. Ces œuvres d'art les dérangent.
Peut-on attribuer ça? On le dit souvent que c'est notre héritage révolutionnaire. Mais aujourd'hui...
Je sais pas,
à quoi peut-on l'attribuer? Parce que quand même, c'est un peu loin pour les générations nouvelles ou pour les gens plus ou moins ignorants. C'est vrai, on ne rentre pas forcément dans une église et quand on y rentre avec des gens plus jeunes, il n'y a pas forcément ces déclics qu'on ne ressent pas la même chose quand on va en Italie et qu'on voit les gens y rentrer.
Bien sûr, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et ces gens plus jeunes auxquels vous faites allusion, on ne les aide pas. On leur dit pas qui en est l'architecte, comment ça a été construit. Enfin, Saint-Sulpice est une église extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à raconter. Le méridien, de la croix.
Avec l'ange, je sais plus quel est le titre.
Et on fait rien pour aider les jeunes. Et les prêtres eux-mêmes sont mal à l'aise avec les œuvres d'art. Je connaissais bien, et j'aimais beaucoup, je le connaissais avant qu'il soit de l'Académie, le cardinal Lustiger.
Oui, qui était membre de
l'Académie française, bien sûr, et qui est venu d'ailleurs nous faire ses adieux, qui c'est une des séances les plus émouvantes que j'ai vécues à l'Académie. C'était bouleversant, le départ du cardinal Lustiger de l'Académie, alors qu'il était, se savait condamné à courte échéance. Ce qu'il nous a dit à ce moment-là, la manière dont il l'a dit, c'était absolument bouleversant. Donc je connaissais Lustiger pour diverses raisons sur lesquelles je n'ai pas à m'étendre ici, depuis bien longtemps, enfin pas si longtemps que ça, mais je le connaissais. Et j'avais essayé de le convaincre qu'il fallait, et les historiens français étaient prêts à le faire gratuitement, qu'il fallait donner des cours d'histoire de l'art aux séminaristes. Nous étions prêts, j'étais à l'époque, j'avais un titre, j'étais président des historiens d'art français, donc j'étais dans la position de faire cette offre. Des cours gratuits aux séminaristes d'histoire de l'art. Lustiger, qui était un homme admirable, qui a été un grand personnage, une très grande figure de l'Église, n'a pas compris. Ça m'a beaucoup frappé. C'est un souvenir qui, je vous dis, je le connaissais par l'Académie, bien sûr, mais je le connaissais de bien plus longtemps. Je l'avais rencontré, il y a 30 ans. Et donc, j'avais gardé avec lui des liens qui n'ont rien à voir avec la religion, si vous voulez, puisque je ne suis pas croyant, mais qui étaient liés quand même à ses origines juives, enfin, etc. Une très grande figure. Et bien là, il n'a pas compris. C'est-à-dire que mon offre, qui était purement, dans l'intérêt, si j'ose dire, du patrimoine religieux, ça ne l'a pas convaincu.
Vous m'avez dit tout à l'heure en micro que vous aviez croisé un de vos confrères à Venise, qui aujourd'hui est aussi disparu, qui est un écrivain, Michel Mort.
Oui.
Et l'évoquiez là autrement qu'avec par rapport à sa plume.
Michel Mort adorait faire des aquarelles. C'était un bon aquarelliste, très sage, mais non sans talent. Et je l'ai vu en plein hiver avec des gants en train de faire des aquarelles. Il grelottait, je grelottais, mais il était là, à des points stratégiques de Venise, en train de faire préparer ses aquarelles.
Parfois, on voit des petits groupes d'aquarellistes
absolument. Dans Venise. La tradition du 19e siècle. Un jeu qu'on peut faire, que je conseille à vos auditeurs. Il y a dans les magazines, quels qu'ils soient, très régulièrement, des photographies de Venise. Pas forcément où on vous dit restaurant ou bien mannequin qui se pose, etc., etc. Découpez la photo et essayez de retrouver l'endroit dans Venise. C'est parfois facile, quand c'est la place Saint-Mars, on y arrive. Mais c'est parfois difficile. Moi, je fais ce jeu-là. J'essaie de retrouver le lieu qui a servi aux photographes ou aux peintres, quand il s'agit des peintres du 19e siècle, et pour voir aussi les changements dans la ville. Il y en a très peu. Très souvent, je parle des peintres du 19e siècle, ce qu'ils ont peint et ce que nous avons sous nos yeux, aucun changement. Je veux dire que ça, c'est quand même assez réconfortant.
C'est ça qui fait que c'est le plaisir que vous avez à Venise.
Voilà, mais ça, c'est un petit jeu que je joue, mais que je conseille à vos auditeurs de jouer. C'est pas facile, toujours.
On peut jouer rien qu'en feuilletant les pages de ce livre. Justement, c'est la question pour ceux qui ont été à Venise. On se demande, alors là, ça a été pris où, etc.
Jean-Baptiste Leroux, qui est un bon photographe, a bien sûr choisi parfois des lieux complètement inidentifiables.
Voilà, alors...
Mais qui sont vénitiens.
Oui, bien sûr. Et à la fin, il y a le plan de Venise et chaque photo est localisée, disons, sur le. Alors évidemment, sur cette artère dont on a parlé tout à l'heure, sur cette serpentine qui est le Grand Canal.
Il y a beaucoup de choses à Venise qui sont. Vous parliez de Venise. C'est une ville de jardins, par exemple. Ils sont malheureusement cachés. Mais il y a d'admirables jardins dans Venise, difficiles d'accès, mais qui valent le voyage. Et puis, par exemple, ce qu'on peut faire aussi, et qui donne de Venise une vision tout à fait différente, c'est de monter sur certains clochers. Ce n'est pas toujours facile, ils sont souvent sans ascenseur, pour ne pas dire toujours sans ascenseur. Mais par exemple, la vue des hauts des Frari est extraordinaire. On peut à Venise, assez facilement, peut-être que c'est ça en fait, qui explique l'énorme succès de la ville et le fait que les touristes y retournent régulièrement, on peut voir Venise avec des yeux très différents, selon les saisons bien sûr, mais aussi selon l'approche que l'on a. Il faut, à mon avis, garder une certaine fraîcheur à l'égard de Venise quand on la visite. Je veux dire par là, justement, mon jeu des tableaux est un jeu qui vous oblige d'abord à faire un petit effort d'essayer de trouver, et puis qui vous oblige aussi à sortir des chemins battus. Voilà.
On va vous laisser sur ce jardin secret, les jardins que vous avez évoqués de Venise, et sur Venise ouverte à tous, bien entendu, mais aussi sur... Merci d'avoir levé le voile sur... la partie de Venise qui est votre jardin secret, un petit peu, dans cet entretien. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur, avant qu'on se quitte ?
Ben non, je voudrais simplement dire que c'est une ville morte, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le dis avec tristesse parce que je me répète, on n'a pas le droit de dire du mal d'un endroit qui vous a accueilli, généreusement accueilli, et que je crois que tout espoir n'est pas perdu. Je crois que les jeunes générations qui fuient Venise, c'est une ville sans jeunes. L'autre jour, je faisais une conférence à Bologne, le soir même, j'étais à Venise. Bologne est une ville d'une extraordinaire vitalité. Les jeunes, il y en a partout. C'est une ville d'étudiants bouillonnante. On arrive à Venise, on sent bien la différence. On arrive d'ailleurs à Venise, je vais peut-être là encore raconter une petite histoire qui est très, très, très caractéristique. Vous prenez le train à Venise pour aller à Milan, par exemple. Il est vide. Alors, vous vous dites, qu'est-ce qui arrive ? Vous arrivez à Mestre. Donc la ville de 250 000 habitants dont Venise fait partie, enfin qui fait partie de Venise pour être correct, et le train se remplit subitement. Jusqu'à Milan, il s'arrête, les gens montent, descendent, puis vous, le soir vous rentrez. Alors il y a du monde dans le train, il y a un peu de monde qui descend à Vérone, un peu de monde qui descend à Mestre, tout le monde descend. Et on se dit qu'on est tellement seul dans le train entre Mestre et Venise qu'on se va faire assassiner. Tellement on est seul, et on comprend beaucoup de choses par là. On s'aperçoit bien que c'est un Finistère où on ne va pas. Donc le train se vide à Mestre, et il se remplit à Mestre. Donc c'est assez intéressant pour comprendre mieux la ville. Donc cette ville, pour conclure, je l'aime tendrement, je souhaite que les jeunes y retournent, je suis convaincu que des petites industries peuvent s'y établir, des industries qui ne demandent pas de polluants.
Les métiers d'art d'ailleurs,
les
peut-être.
Métiers d'art, et qu'avec un petit effort de la part des administrations qui ont une culpabilité dans la situation actuelle de Venise, on pourrait lui redonner une vie qui ne soit pas qu'une vie de touriste.
Merci pour ce bel espoir, Pierre Rosenberg.
Merci beaucoup.
Merci, Pierre Rosenberg, d'être venu évoquer Venise, qui occupe une si belle place dans votre vie. Et signalons aux auditeurs votre livre « Venise, itinérance » aux éditions Imprimerie Nationale, qui est un livre de photographie réalisé par Jean-Baptiste Leroux, photographe des villes, des palais et des jardins.